Voilà. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, puisque la session est presque terminée. On va démarrer sans tarder, et je dois commencer par 3 pages de publicité. La première, la plus agréable, en ce qui concerne l'examen. Et donc, il y a 3 étudiants, me semble-t-il, ou peut-être 4, qui m'ont approché en me disant qu'ils souhaitaient passer l'examen sur ce cours, et bien volontiers. Alors, tenant compte de votre blocus et temps d'examen, je propose que ce soit un jeudi à 17h. Est-ce que le 29 janvier peut convenir? Donc, ça ne doit pas encore se décider cette fois-ci, mais la fois prochaine, il faudra qu'on soit au clair. Pour ceux qui passent l'examen, en fait, il dure 20 bonnes minutes. Les 10 premières minutes sont à vous. Donc, vous choisissez une question qui concerne la liturgie et, si possible, avec des éléments du cours. Tout arrive, vous savez. Même à l'IET, j'ai déjà reçu comme examen un travail de séminaire qu'on était parvenu à me faire passer sous l'étiquette liturgie. Mais bon, comme j'ai été étudiant dans le temps, j'ai reconnu le sujet de séminaire. Donc, on s'est revu en septembre. Mais donc, en fait, donc vous choisissez la première question, et c'est assez sympa parce que dans le choix même de la question, la cote est déjà là. Dans la mesure où si on prend une question de par cœur, mot à mot, ce n'est pas très, très intéressant puisque je connais le polycopier et vous aussi. Et donc on choisit une question et puis on tourne autour avec éventuellement des expériences pastorales ou des réflexions plus personnelles ou plus spirituelles, très volontiers. Et puis la deuxième partie, ben, ce serait peut-être quelques sondages dans les grandes avenues du cours. Donc le 29, à partir de 17h, si ça vous convient. Deuxième page de publicité, il y aura, comme on vous l'a sans doute déjà dit, il y aura un CD à la fin de ce cours, comme pour tous les cours du soir à l'IET, toutes les sessions qui ont lieu le soir. Et donc ce CD sera mis en vente au prix de 10 euros. Mais, contrairement aux autres années, ici il faut s'inscrire à l'avance. Donc il y a une feuille qui va circuler, et si vous souhaitez entendre la voix des 4 intervenants, outre les cours, eh bien, vous pouvez toujours avoir accès au contenu par ce support-là. Donc, je vous rappelle que toutes les conférences, du moins la partie écrite, sont disponibles sur Internet, sauf celle du cardinal, mais qui a été reprise largement dans sa brochure de Pâques de l'an dernier, et celle de l'abbé de Clercq, donc la deuxième. Donc cette conférence-là, je ne l'ai pas. La première est un résumé d'un article qu'il a publié et que vous trouverez l'article sur Internet. Ah oui, troisième page de publicité, les éditions Lessius. Comme chaque fois à la fin du cours du soir, vous proposeront jeudi prochain à la fin du cours à 21h30, on m'a assuré à prix d'amis quelques bons livres de leur collection. Je ne sais pas si c'est soldé, mais ça en a tout l'air. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai amené des livres, plus que d'habitude, puisque en général je n'en amène pas, et je vais les commenter à mesure que j'avance. En fait, nous allons parler ce soir de l'année liturgique, et j'ai choisi comme titre, comme vous l'avez vu sur les folders, l'importance de l'année liturgique pour la vie paroissiale et la vie personnelle, la vie spirituelle personnelle. En fait, et ne nous soumet pas à la tentation, il y a une grande tentation pour un prof de liturgie de s'embarquer dans l'histoire de l'année liturgique. Et donc, c'est un domaine passionnant pour les historiens, pour les liturgistes aussi. On a découvert beaucoup de choses, mais il y a encore pas mal à découvrir, notamment pour les 4 premiers siècles. Mais je crois que ce n'est pas cela que vous attendez. Et par ailleurs, cet historique de la genèse de l'année liturgique, on la trouve aisément, abondamment. Et donc, si la question vous intéresse de façon plus directe, je vous recommande cet ouvrage dont on a déjà dû parler depuis longtemps, de Aimé Georges Martimor, « L'Église en prière ». C'est un livre qu'on trouve aisément. Attention, il faut prendre la deuxième édition. Ça s'appelle Édition Nouvelle. Et la dernière impression de l'édition Nouvelle, ce n'est plus en quatre volumes, mais c'est en un seul volume. Donc si vous avez l'édition Nouvelle en quatre volumes chez vous et que vous voyez chez un libraire une édition en un volume, ne faites pas comme moi, ne l'achetez pas, c'est la même. Simplement, l'imprimeur a, pour la nouvelle impression, il a rassemblé les quatre volumes en un. C'est tout à fait remarquable, bien que ça date déjà de 1983, donc 84 même pour la deuxième édition. Et c'est un des grands livres en ce qui concerne la liturgie en français, en sachant que il est relativement destiné, je ne dis pas à des spécialistes, mais à des connaisseurs de la liturgie. Donc, il y a pas mal de références bibliographiques et un certain nombre de termes techniques. Si vous cherchez quelque chose de moins technique et de plus opératoire directement sur le terrain, il y a cet ouvrage-ci, également disponible en un seul volume, sous la direction de Joseph Gélineau, Dans vos assemblées, sous-titre Manuel de pastorale liturgique. Donc, ceci est plutôt un ouvrage qui traite des principes de la liturgie et de l'histoire, avec des éléments pour sa mise en œuvre, puisque ceci est plus directement pastoral. Et c'était publié chez Desclées, vous trouverez la référence dans les notes des notes. Ça vaut la peine d'acquérir ceci. Si vous vous intéressez à la liturgie dans vos assemblées, ben, Saint-Nicolas et Père Noël sont déjà passés, mais peut-être que pour Pâques, hein, qui sait, vous pourriez vous faire offrir cela. Alors, en ce qui concerne toujours les origines de l'année liturgique, l'ouvrage dont on parle beaucoup en français, c'est un ouvrage de Tallet, Thomas Tallet, Les origines de l'année liturgique, publié aux éditions du Cerf en 1990, c'est traduit de l'américain, et c'est un ouvrage qui est accessible et qui est tout à fait remarquable au niveau du sujet précis de l'histoire de l'année liturgique. C'est très très bien fait. C'est du reste le premier volume de la collection Liturgie, qui est une bonne collection aux éditions du Cerf, la même collection où l'abbé de Clercq a publié son livre Intelligence de la liturgie, qui vaut la peine également d'être mis sur la liste pour les cloches pascales. Voilà, les autres ouvrages, je vais vous en parler tout en allant, si je peux encore. Également, donc, ce sont les éditions du Cerf. Ce sont des petits fascicules que vous connaissez peut-être. C'est la collection Guides célébrés. C'est publié par la Commission nationale de pastorale liturgique, CNPL. Et le premier volume s'appelle Du bon usage de la liturgie. Alors, c'est un ouvrage tout à fait fondamental, qui n'est pas pour autant primaire, au sens que c'est pas un ouvrage qui est destiné à être lu par des enfants de première communion, certainement pas. Mais c'est en français simple, avec une très fine théologie sous-jacente, et je trouve que c'est remarquable. Et ça a le gros avantage de ne pas être gros. Vous aurez également la référence de ceci dans les notes. Il y a toute une série d'ouvrages différents dans cette collection célébrée. Par exemple, Proclamer la parole, l'accès des personnes handicapées au sacrement. Il y a peu de publications là-dessus. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Très très bien fait. Du bon usage de la liturgie, c'est ceci. Et alors un livre qui est paru depuis lors, L'art de célébrer. Voilà, c'est à la fois concret et en même temps profond, à mon avis. Alors, tant qu'on est dans ma lancée de bibliographie, un livre qui date déjà de Jean Corbon, c'est-à-dire un vieux rossignol qui date de 1980, ça s'appelle Liturgie de source, vous aurez également les références dans les notes des notes. C'est un des tout beaux ouvrages que je connais sur une approche plus poétique, plus méditative de la liturgie, tout en étant extrêmement solide. Jean Corbon, Liturgie de source. Je ne sais pas si on le trouve encore en librairie, mais on le trouve aisément dans les occasions, donc dans des bibliothèques qui proposent des livres d'occasion, comme par exemple la bibliothèque de Liège en propose régulièrement, et la bibliothèque diocésaine de sciences religieuses, rue de la Linière. Je ne sais pas si on a ceci, mais on a également des occasions à trouver là-bas. C'est très bien fait. Voilà. Eh bien, il ne m'en reste plus qu'un, donc je vais déjà en parler maintenant. C'est un livre qui n'est pas si ancien, quoiqu'il date déjà de 2003. Je trouve que c'est remarquable. C'est Philippe Rouillard, donc c'est un bénédictin, et ça s'appelle Les fêtes chrétiennes en Occident. C'est le meilleur livre en français accessible que je connaisse, qui traite pas de la thématique de l'année liturgique comme telle, mais on aborde l'année liturgique en donnant des éléments d'explication pour chacune des fêtes chrétiennes. Et c'est extrêmement bien fait. C'est un bon connaisseur, il était professeur à Rome, et en fait, il intègre bien également la partie qu'on pourrait appeler peut-être un peu facilement folklorique des fêtes liturgiques, j'en parlerai à la fin du cours, et qui est loin d'être négligeable en pastoral. Donc, les fêtes chrétiennes en Occident. Philippe Rouillard, Rouillard. Donc, ce soir, je mettrai les notes sur Internet et vous aurez les références via le site. Voilà. Alors, nous allons d'abord prendre le temps d'une bonne introduction, et puis il y aura trois points: la liturgie et le temps, le centre de l'année liturgique, et enfin l'année liturgique en paroisse. Donc, vous savez que les spécialistes en liturgie chrétienne appellent le calendrier liturgique, ils le dénomment l'année liturgique. Et cette année liturgique se présente comme une organisation cohérente des jours et des semaines d'une année. Cette organisation, dans son état actuel, comporte un double mouvement, comme vous savez. Il y a d'une part un mouvement de fête mobile et d'autre part un mouvement de fête fixe. Les fêtes mobiles, c'est Pâques et la Pentecôte, avec ce qui tourne autour. Et puis les fêtes fixes, c'est Noël, l'Épiphanie, la Transfiguration et également les fêtes mariales. En fait, comme vous le savez également, l'année liturgique forme un cycle qui est apparemment repris de façon identique chaque année. Mais je dis apparemment, parce que la première remarque est importante, et vous le savez sans doute, le temps liturgique est à l'inverse d'un temps cyclique. Et donc, j'enrage quand on me parle du cycle de l'année liturgique. C'est pas faux, c'est correct. Mais ce n'est pas un temps cyclique. Le temps liturgique est un temps linéaire. Et donc, je voudrais, dans l'introduction, développer ceci. C'est extrêmement important. En fait, on y a beaucoup insisté. La liturgie est une action, comme toute action. Elle a besoin de temps pour être posée, une action qui ne gère pas d'une manière ou d'une autre le temps humain, hein, est impossible. Et donc, en fait, le temps humain de la célébration est un temps qui vise en réalité à nous relier à l'action de Dieu, au temps de l'action de Dieu. La liturgie, fondamentalement, rappelez-vous, hein, c'est la célébration d'une action dont Dieu a l'initiative. Et j'emploie à dessein le terme relié avec, puisque vous rappelez que c'est la signification originelle du mot symbolon, du mot symbole. Hein. Le but ultime du symbole, hein, c'est de créer des liens, hein, d'être créateur de liens. Le Dieu des chrétiens, le Dieu de Jésus-Christ, n'est pas un Dieu hors du temps, mais c'est un Dieu qui agit dans le temps sans s'y dissoudre. Je sais bien que, et particulièrement chez certains jeunes, ou chez certains vieux jeunes, ce qu'on appelle le panéantéisme, hein, donc cette conviction que Dieu est partout et qu'il est en moi, que je suis Dieu d'une certaine manière, donc il y a des liens avec le New Age là, est une conviction qui est relativement répandue. Et donc, si notre Dieu, le Dieu de Jésus et le Dieu des chrétiens, agit dans le temps, il ne s'y dissout pas. C'est un élément qui est absolument essentiel à souligner. Et donc, les interventions de Dieu passe par l'histoire, hein, et comme toute action historique, ces actions de Dieu marquent l'histoire des hommes d'une irréversibilité. Hein. Le propre d'une action historique, c'est que une fois qu'elle est posée, ben, elle est posée. On ne peut plus revenir dessus, dans la mesure où l'histoire continue et l'action, elle est là. Et donc, en fait, l'incarnation, comme le mystère pascal, c'est d'une certaine manière un unicum divin, ou en grec c'est un apax, une seule fois. Apax en grec veut dire une seule fois. C'est arrivé une seule fois, l'incarnation et le mystère pascal. Et donc, le temps de l'action liturgique chrétienne a cette particularité d'être non pas cyclique, parce qu'on ne cherche pas à répéter sans cesse la même action, mais c'est un temps linéaire. Et pour pouvoir comprendre cet aspect-là, qui est essentiel, il faut faire un tout petit peu de théologie et revenir à ce concept qui est central dans la pensée paulinienne, c'est le terme oikonomie, l'économie. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé ici, parce que c'est un des dadas de prof. Hein. Et donc, oikos veut dire maison en grec. Hein. Nemo, ou à l'infinitif, nemain, c'est manager, c'est distribuer, c'est gérer. Hein. Et donc, l'économe, c'est celui qui gère la maison, l'intendant, l'administrateur, par extension. Comme les Grecs étaient fascinés par le beau, hein, l'économe, c'est celui qui gère bel et bien et bellement, hein, les biens, soit les siens, soit ceux d'autrui. Alors, Paul va prendre ce terme. Il fallait bien qu'il kidnappe un mot, hein, ou si vous préférez, qu'il aille squatter un concept existant à son époque pour dire ce que l'œil n'avait pas encore vu, ce que l'oreille n'avait pas encore entendu. Hein. Donc les premiers théologiens vont être confrontés à cette difficulté, hein, d'exprimer des réalités essentielles pour notre foi avec des mots qui en fait sont par certains côtés inappropriés puisque ça n'est jamais arrivé. Un exemple de ceci, c'est quand Jésus sort du tombeau, comment est-ce qu'on va appeler ça? Donc on va prendre le terme résurrection, mais donc on va kidnapper ce terme d'un usage courant pour lui donner une signification lestée de la nouveauté qu'apporte le Christ. Vous comprenez? Donc, Paul va être confronté, donc, un des grands premiers théologiens, après Jésus, bien sûr. Et donc, pour désigner, si vous me permettez l'expression, qui est peut-être un peu plate, mais que je trouve tellement éclairante, pour désigner la manière dont Dieu manage le temps pour l'amener à sa plénitude, Paul va utiliser le terme « économie ». L'économie, c'est la gestion du temps par Dieu pour faire aboutir son projet de salut, ça c'est le terme technique, pour faire aboutir son rêve d'accomplissement de l'homme, à savoir comment est-ce que je peux bien me débrouiller pour que l'homme puisse être le plus accompli possible, c'est-à-dire qu'il puisse véritablement, comme dit la première lettre de Pierre, participer à ma propre divinité, à ma propre nature divine. Participer. Et donc, Paul, pour désigner cela, va utiliser le terme d'économie. Et donc, en fait, l'économie, c'est le temps de Dieu qui vient entrelacer le temps de l'homme, afin que l'homme puisse participer à la vie même de Dieu. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le temps propre de l'économie, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler le temps de l'éternité immuable de Dieu. Ce n'est pas non plus le temps originel, mais le temps de l'économie, c'est le temps de l'histoire du salut. C'est le temps où Dieu agit en avançant lentement dans son projet, à mesure que les hommes l'écoutent et qu'il parvient à les convaincre d'arrêter de résister à son alliance, et à mesure que Dieu avance ainsi, eh bien, Dieu, véritablement, de plus en plus, entre dans le temps des hommes. Et donc, cette remarque à propos de l'économie, pour vous rappeler que les fêtes principales de la liturgie chrétienne ne célèbrent pas l'éternité, Mais le fait principal des chrétiens, c'est précisément cette économie. En fait, l'histoire du salut, c'est une histoire de personne. C'est l'histoire de Dieu qui crée, des prophètes que Dieu envoie, du Christ qui se laisse envoyer, du peuple de Dieu qui est en marche. Et c'est notre histoire, à nous, qui accueillons ce projet de Dieu et qui lui offrons en retour sa bénédiction. Donc, le temps de l'année liturgique n'est pas un temps cyclique, c'est un temps linéaire. Pourquoi? Parce que c'est un temps qui nous met au diapason du temps de Dieu, du temps tel que Dieu le perçoit, un temps de rencontre. Je vais revenir à cette insistance majeure de différentes manières encore. Quand vous regardez dans le missel romain, les titres qui figurent au-dessus des fêtes qui constituent l'année liturgique, et donc les fêtes que nous célébrons tout au long de l'année, ce sont d'abord et avant tout, pratiquement toutes, des fêtes du Seigneur soulignées trois fois au bic rouge. Quand vous regardez un missel, c'est la nativité du Seigneur, c'est l'épiphanie du Seigneur. Le dimanche des rameaux, c'est aussi le dimanche de la passion du Seigneur. Le dimanche de Pâques, c'est la résurrection du Seigneur, etc. Et donc, dans toutes les fêtes, sauf peut-être une exception, je ne sais pas si vous allez la trouver, il y a une exception, une fête, qui n'est pas mentionnée du Seigneur. Non, c'est l'ascension du Seigneur. Ah, l'Assomption, oui, c'est une fête mariale, mais la Toussaint, oui, Pentecôte aussi, mais c'est en fait la fête de la Sainte Trinité, hein, qui est la dernière née dans l'année liturgique et qui est peut-être, enfin, c'est le professeur Rousseau qui disait ça, dont je suis un élève très admirateur, du reste, c'est peut-être davantage une fête d'idées qu'une fête économique, dans la mesure où la Trinité s'est révélée tout au long de l'économie. Il n'y a pas un événement précis, bien que une excellente thèse de Jean Cocteau, que vous connaissez sans doute, où il montre que l'esprit se révèle de façon très, très intense et très remarquable au moment de la crucifixion de Jésus. Mais donc, les théologiens affirment que la Trinité se révèle tout au long de l'économie, tout au long de l'histoire du salut. Et donc, les fêtes de l'année liturgique sont fondamentalement centrées sur le Seigneur, mais dans la réalité, eh bien, le langage courant a simplifié ces dénominations, et en fait, on a très souvent retiré le du Seigneur. Donc, au lieu de nativité, on parle de Noël, on parle de l'Épiphanie, on parle du dimanche des rameaux, on parle de Pâques, et donc le du Seigneur est souvent omis. Bon, ceux qui doivent faire les feuilles paroissiales, c'est vrai que quand les caractères sont comptés, c'est plus facile de le laisser tomber, mais en fait, dans cette concision, il y a quelque chose de significatif, c'est que il y a peut-être aussi la perception que, au travers de ces fêtes du Seigneur, c'est aussi notre propre histoire que nous fêtons. Car le but d'une fête liturgique, qui revient chaque année, ce n'est pas d'abord et avant tout de commémorer un événement passé, mais c'est d'entrer dans ce qu'on appelle le mystère du salut que cette fête veut révéler et communiquer. Concrètement, par certains côtés, et quelqu'un comme Saint Bernard, il n'est pas le seul à l'avoir fortement mis en valeur dans ses homélies pour Noël, pour la nativité du Seigneur, c'est notre naissance à la vie divine que nous célébrons à Noël aussi. C'est notre résurrection via le baptême que nous célébrons aussi à Pâques. Et si vous me dites, vous êtes quand même un peu gonflé là, est-ce que c'est pas un peu excessif? Eh bien, prenons la liturgie. Et voyez par exemple le texte dans la liturgie pascale. Par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. Donc, extrait de la veillée pascale. Et cette prière, hein, nous rappelle que nous ne sommes pas spectateurs, mais que nous sommes véritablement acteurs de la liturgie qui est célébrée. Et donc, c'est une des premières réponses, hein, au titre du partage ce soir, l'importance de l'année liturgique pour ma vie spirituelle personnelle. Hein, c'est en fait, chacune de ces fêtes, hein, est une invitation à, non pas à nous approprier, parce que le terme est inadéquat, mais à nous laisser saisir par ce que cet aspect-là du mystère du salut nous rappelle et nous révèle. En célébrant les fêtes du Seigneur comme nos fêtes propres, en fait, on célèbre aussi la vie qui nous est donnée, la vie qui est développée, qui est manifestée, qui est épanouie en nous, et en même temps, on célèbre la vie de l'Église, hein, ce corps ecclésial du Christ, hein, le fait que nous soyons rassemblés, hein, pour cette fête qui habituellement, hein, se culmine dans une célébration de l'Eucharistie, avec toute l'importance que nous avons rappelé, les différents intervenants dans cette session ont rappelé donc l'importance du corps ecclésial, hein, qui est un des fruits essentiels visés par l'Eucharistie. Eh bien, donc chacune des fêtes nous rappelle, hein, à quel point l'Église est véritablement partie prenante, hein, de ces différents mystères du salut du Seigneur. Sans elle, nous ne pourrions pas y communier dans tous les sens du terme. Vous savez que toutes les religions du monde, au long des siècles, ont admiré, vénéré, célébré d'une manière ou d'une autre, hein, le soleil et la lune. Et le christianisme, à sa manière, ne les ignore pas, hein, ni le soleil, ni la lune, hein, ne serait-ce que au niveau de la lune, l'importance de la lune pour déterminer la fête de Pâques. Mais en fait, quand on regarde l'agencement actuel de l'année liturgique, c'est plutôt les saisons, hein, qui vont conduire, qui vont rythmer le calendrier de nos fêtes. Et il faut bien le reconnaître, ce sont les saisons telles qu'on les vit dans l'hémisphère nord. C'est tout en tout cas, un sujet de réflexion et d'adaptation pour les chrétiens, les très nombreux chrétiens qui vivent dans l'hémisphère sud, hein, puisque eux vont célébrer Noël en été, hein, et Pâques en hiver. Mais toute la symbolique de l'année liturgique, hein, chrétienne est en fait conduite, hein, par la victoire de la lumière sur les ténèbres, hein, et également la victoire de la vie sur les puissances de la mort. Dans les fêtes de Noël et de l'Épiphanie, le peuple chrétien accomplit une forme de rite de passage des ténèbres à la lumière en accueillant la vraie lumière qui vient en ce monde. Et à Pâques, et tout au long de la cinquantaine pascale, donc jusqu'à la Pentecôte, on célèbre la puissance de la vie sur les puissances de la mort. Et donc, la nature nous aide beaucoup, et ça, on en a tous fait l'expérience, hein, surtout quand Pâques tombe tôt et qu'il ne fait pas trop froid. Et donc, vous avez les forsythias qui sont en fleurs, donc la plus grande joie de fleuriste des paroisses. Et donc, on sent que la nature revit. Et donc, célébrer, hein, la victoire de la vie sur la mort à ce moment-là est un adjuvant extrêmement précieux pour tous, quel que soit. Donc, il ne faut pas décoder très très longtemps les symboles. Hein. Et c'est pareil quand, à Noël, hein, on célèbre la puissance de la lumière sur la ténèbre, puisque on commence à découvrir, enfin on ne voit peut-être pas tout à fait, mais si on écoute les éphémérides au niveau de la météo, on apprend que les jours commencent à rallonger. Alors, saviez-vous que au départ, la fête de Toussaint, donc dans l'église de Rome, on fêtait la Toussaint le 13 mai. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'en réalité, le 13 mai, ça tombe bien, on est souvent dans un climat pascal, et donc les saints, en quelque sorte, participent, hein, ils sont déjà les témoins de la force de la résurrection du Seigneur. Mais en fait, le 1er novembre 875, pour être précis, on a transféré la Toussaint du 13 mai au 1er novembre, et cela sous l'influence des Celtes et des Francs, qui n'imaginaient pas un seul instant que l'on puisse fêter des morts au printemps. Et donc c'est là qu'on voit, Hein, on aura d'autres exemples, hein, l'influence de la fête, hein, et de certains traits communs entre des fêtes chrétiennes et des fêtes païennes, mais abstraction faite de ce qui est véritablement le ressort de cette fête, hein, le ressort de la Toussaint. Au départ, c'est une fête mariale, hein, et puis on a étendu ça aux amis de Marie, hein, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'amis, et donc c'est ainsi que très rapidement la fête de la Toussaint s'est étendue à tous ceux qui en fait suivent l'agneau immolé, donc la très belle et grande lecture de l'Apocalypse. Alors, un élément encore, c'est que cette année liturgique, avec son calendrier très marqué par les saisons occidentales, en outre, cette année liturgique est très marquée par un certain rythme rural. Mais le citadin, qui aujourd'hui est de plus en plus nombreux statistiquement par rapport aux gens habitant à la campagne, le citadin n'attache pas du tout la même importance que le campagnard à la succession et à la différence des saisons. Car la vie au bureau ou à l'usine ne dépend pas, ou si peu, des variations cosmiques ou climatiques. Enfin bon, si gèle à moins 20, peut-être bien, mais en fait, la plupart des citadins n'ont pas leur rythme affecté par la pleine lune, par une sécheresse prolongée ou par une gelée tardive. Et donc, même si ça influence, ça n'a pas le même impact, si vous voulez, hein, quand vous vivez de la terre, en quelque sorte. Et donc, c'est un élément également qui fait que les fêtes ont actuellement en ville peut-être un peu plus difficile à trouver leur terreau anthropologique. Donc voilà quelques éléments en guise d'introduction. Je résume, le temps de l'année liturgique n'est pas un temps cyclique, contrairement aux apparences, c'est un temps linéaire, je vais y revenir. Les fêtes sont fondamentalement des fêtes du Seigneur et elles sont très marquées par un rythme saisonnier qui est de type occidental. Alors, voyons maintenant le lien entre liturgie et le temps. En fait, je ne vous apprends rien en disant que l'être humain a besoin de fêtes et il a un besoin vital de fêtes. Pourquoi faut-il des fêtes? Pour trancher avec le quotidien. Donc il faut une alternance entre quotidien et festif. L'un appelle l'autre. Et en fait, l'humain qui inscrit sa vie dans un cadre temporel réglé, hein, parfois très réglé, genre métro-boulot-dodo, eh bien, cet homme-là a aussi besoin de rupture. Et les ruptures, nous disent les anthropologues, sont indispensables pour ne pas précisément se désinvestir de son expérience ou de son existence quotidienne. Il faut de l'autre, de l'autre monde, il faut de la fête pour que le quotidien puisse être géré en tant que tel. Et donc, l'homme construit sa vie, il va construire son identité, hein, avec un rythme, une alternance, hein, entre quotidien et festif. En fait, la gestion chrétienne du temps, qu'est l'année liturgique, n'ignore pas ces questions. Mais les chrétiens vont interpréter cette demande, ce besoin de fête de la part des humains, en l'insérant, ce besoin, dans une tradition religieuse précise. Alors, vous le savez certainement, l'axe fondamental qui règle la liturgie en général, et l'année liturgique en particulier, c'est Pâques, et donc c'est le mémorial de la Pâque du Seigneur. Donc l'axe de l'année liturgique, c'est Pâques, je vais y revenir. Et donc, cet axe étant posé, on voit que l'année liturgique apparaît, transparaît, comme une alternance entre des temps forts, si vous préférez, des temps festifs d'un côté, et puis des temps plus faibles, enfin, des temps plus quotidiens, des temps qu'on appelle ordinaires. Cette alternance, elle est, je crois, psychologiquement et donc pastoralement indispensable. Si vous êtes responsable d'une communauté chrétienne et que vous visez que cette communauté vivent sans cesse à un rythme de temps fort en disant rien de trop pour le Seigneur, vous risquez de fameusement décourager, voire de briser votre petit troupeau. Et donc, c'est indispensable de laisser ce rythme entre temps fort et temps moins fort, de le laisser courir. Et donc, cette alternance entre temps fort et temps moins fort va permettre à l'homme de se replonger dans son histoire, c'est-à-dire, pour un chrétien, aussi dans une histoire d'alliance avec son Dieu, pour pouvoir se ressaisir sous le regard de Dieu créateur. Vous savez que pour Dieu créer, quand Dieu crée un jour, il crée toujours. La création, si je peux faire cette petite parenthèse théologique, mais elle est tellement importante dans notre quotidien, créer, ce n'est pas fabriquer. Nous, quand nous faisons, entre guillemets, une table, on ne crée pas la table, on la fabrique. Et une fois que la table est fabriquée, si on est bon menuisier, eh bien, elle tient, entre guillemets, toute seule, jusqu'à ce que des vers l'exterminent, ou un tremblement de terre, ou je ne sais pas, un hiver trop fort et qu'on a besoin du bois. Mais donc, pour Dieu, ce n'est pas ainsi. Quand Dieu crée, il crée sans cesse. Et donc, il y a une phrase que Saint Jean met dans la bouche de Jésus qui est superbe de ce point de vue-là, quand il dit « Vous êtes dans la main du Père, et nul ne pourra t'arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Et donc, quand Dieu nous donne la vie, eh bien, il cherche à nous tenir en vie, au-delà de notre mort biologique et de notre mort physique. C'est la grande révélation du matin de Pâques. C'est que même la mort physique, le dernier ennemi, eh bien, il est vaincu. Et donc, rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, comme dira saint Paul de mille manières. Et donc, l'année liturgique, avec ses différents moments qui nous rappellent notre propre histoire avec Dieu, devraient être des moments qui nous remettent devant ce regard créateur de Dieu. Et pourquoi est-ce important? Mais parce que c'est pareil, paraît-il, quand des parents voient arriver leur premier enfant et tous les autres du reste qui viendraient après, c'est que les parents, spontanément, ont un projet pour leur enfant, pour leur gamin. Ils rêvent ce qu'il y a de meilleur pour lui. Et donc, dans ce projet, le plus de portes possibles sont ouvertes pour cet enfant. Donc, nous revoir dans le regard créateur de Dieu, c'est nous remettre face à un avenir où Dieu est véritablement partie prenante ô combien. Et dans la quotidienneté des choses, ce regard-là, peu à peu, s'émousse. Donc, le premier intérêt de l'année liturgique consiste à créer cette alternance de temps fort et de temps faible. Il y a donc des fêtes qui sont séparées d'un temps moins valorisé et qu'on appelle souvent ordinaire, mais comme vous savez, l'appellation officielle en liturgie, c'est le temps durant l'année, le dimanche de l'année. Et cette alternance, temps fort, temps faible, va créer un rythme qui va permettre d'échapper à la monotonie. C'est très caractéristique, par exemple, pour ceux et celles qui vivent la vie monastique. À partir du moment où dans les monastères, en tout cas, je songe notamment aux trappistes, qui avaient pendant des siècles une vie de travail manuel centrée sur une ferme et donc des travaux agricoles, à partir du moment où on supprime les fermes, parce que la communauté est trop âgée ou parce qu'elle n'est plus rentable, eh bien, la seule chose qui change dans une communauté pour un moine, c'est l'année liturgique. Sinon, c'est pareil, c'est le même horaire du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, dans ce cadre-là, il est clair que l'année liturgique va recevoir une résonance extrêmement forte. Tandis que dans notre brouhaha des villes en particulier, c'est beaucoup plus difficile de permettre à cette variation entre temps fort et temps faible, de prendre à ce point-là toute notre existence. J'y viendrai dans un moment en parlant de la vie en paroisse. Au fond, l'année liturgique, c'est un programme qui fait naître la différence. Et de ce point de vue-là, on peut comparer l'année liturgique à ce que Le renard explique au petit prince, hein, quand il l'apprivoise, et quand le renard parle du rite. Hein. Et vous rappelez ça, le renard explique au petit prince que le rite, c'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, et une heure est différente des autres heures. Hein. Et c'est très finement vu, et c'est tout à fait fondamental, d'un point de vue anthropologique. Alors, quelle est la valeur? Une des valeurs spirituelles de ce calendrier annuel, eh bien, je l'ai déjà évoqué, enfin, entrevu tout à l'heure dans l'introduction, c'est que le cœur même de l'année liturgique consiste à ouvrir le temps des hommes sur le temps de Dieu, si on peut dire. Et donc, les fêtes liturgiques ont pour but essentiel de relier nos existences à celles de Dieu, de nous faire communier aux événements majeurs de la vie de Jésus, non pas par une espèce de merveilleuse machine à remonter le temps, mais par le biais du contact offert par les sacrements et par la parole de Dieu, par la parole de Dieu lue dans la liturgie. Et alors, je ne résiste pas à cette méditation de Benoît XVI, qu'il a proposé pour le premier dimanche de l'Avent 2008. Donc c'est le 30 novembre 2008, vous aurez la référence dans les notes. Et donc en fait, Benoît XVI commence par ce constat fréquent: nous disons tous, le temps nous manque, car le rythme de la vie quotidienne est devenu frénétique pour tous. Et Benoît XVI continue: à cet égard, hein, j'ai pas le temps, l'Église a une bonne nouvelle à apporter. Dieu donne son temps. C'est évident, mais je trouvais ça superbe comme insistance. La question du temps et de la temporalité est une question qui est très présente dans la pensée de Joseph Ratzinger et qui est maintenue maintenant dans les publications du pape Benoît XVI, à juste titre du reste, bien sûr. Et donc, il insiste sur le fait que, quand on dit j'ai pas le temps, mais il dit, mais Dieu donne son temps. Il a du temps pour nous. Et pour Benoît XVI, c'est la première chose que le début de l'année liturgique doit nous faire découvrir, hein, avec un émerveillement toujours neuf, hein, c'est que Dieu donne son temps parce que il entre dans l'histoire avec sa parole. Et vous savez, j'ose à peine ouvrir cette parenthèse, mais vous savez qu'en hébreu, donc le mot parole, enfin dabar, veut dire à la fois parole, hein, parler, et en même temps événement, hein, c'est le même terme. Et c'est extrêmement riche du reste pour saisir quelque chose de la personnalité profonde de Dieu. Ce que suggère du reste le premier récit de la Genèse. Hein. Dieu dit et cela fut. Donc d'un point de vue spirituel, hein, l'année liturgique, c'est d'abord une offre de Dieu. Donc je n'ai pas à inventer la fête, mais je suis invité à y entrer. Et si je suis avec le moral dans les talons, et peut-être même dans la cave, hein, et qu'on me demande de chanter Alléluia parce que voilà, c'est le printemps et que c'est Pâques, eh bien, j'entre dedans. Donc, ce n'est pas mon goût, mon émotion, mon sentiment qui domine. Pareil, donc, et là, je vis ça comme prêtre de paroisse, hein, je viens de perdre mon conjoint ou dramatiquement un enfant, et puis, et 15 jours après, c'est Noël. Moi, je n'ai pas du tout le cœur à fêter Noël, entre guillemets. Eh bien, en accompagnant bien ces personnes, hein, avec tact et pas avec du genre t'en fais pas mon pote, ça va aller, hein, donc on l'enfonce encore plus avec ça. Mais avec ce tact, hein, cette finesse qui essaie de saisir le moins mal possible ce que l'autre vit, Noël peut être un grand moment de salut pour cette personne. Parce que si vous voulez, le temps liturgique est un temps qu'on ne choisit pas comme tel, et c'est un temps dans lequel on nous demande d'entrer en Église. Et du point de vue de la vie spirituelle, ce sont des moments bénis. C'est une soirée de parenthèse. Peggy, dans ce très beau livre, Le mystère des saints innocents, dit quelque part, en substance, je ne me souviens plus comment il le formule, ne soyez pas comme des gens dans un canot qui sans cesse rament à contre-courant. Hein. Et il commence en disant, mais je vous connais, vous, donc en parlant des hommes, je vous connais. Vous feriez tous les sacrifices du monde, excepté ce peu d'abandonnement qui est tout pour moi, dit Dieu. vous seriez prêt à tout, excepté ce peu d'abandonnement qui est tout pour moi. Ne soyez pas comme des gens qui sans cesse dans des canaux rament à contre-courant, mais laissez-vous couler doucement au fil du courant. Eh bien, c'est cette, enfin, d'après les livres, la vie spirituelle, c'est fondamentalement cela, hein, cette remise en main dans la main de Dieu, hein, comme disait Jésus, vous êtes dans la main du Père. Hein. Eh bien, le calendrier liturgique, hein, de façon très concrète, hein, nous invite à vivre cela, à entrer dans un temps, dans une fête, dans un esprit de fête que je n'ai pas choisi, que je n'ai pas créé, mais dont je me réjouis avec mes frères et sœurs qui sont autour de moi. Comme disait Marcel Auclair, qui a écrit, à mon avis, une des plus belles vies de Sainte Thérèse d'Avila. C'est peut-être pas une vie très scientifique, mais elle est admirable de féminité, de bout en bout, et de spiritualité aussi. Et donc Marcel Auclair a écrit un livre après ça, où il raconte tout ce qui lui est arrivé pour rédiger son livre sur Sainte Thérèse d'Avila. Elle a eu beaucoup d'ennuis, parce que à l'époque, dans les années 50, la clôture du Carmel était très stricte, même pour les dames. Et donc, elle était parvenue à avoir des autorisations de cardinaux, je crois, en tout cas de la curie romaine. Et donc, un beau jour, elle arrive à un Carmel, je ne sais plus, donc un Carmel espagnol. Elle a fait le tour de tous les Carmels que Sainte Thérèse d'Avila a fondés. Et donc, elle sonne, et donc elle demande à être reçue, et elle montre la lettre qui l'autorise de la part de, je ne sais plus, quelle congrégation romaine. Et donc, c'est non. Et puis, on la ramène quand même poliment à la porte, hein. Et en fait, elle était parvenue à avoir une voiture consulaire, je ne sais pas très bien, donc une grosse américaine noire, hein. Et au moment où elle sort du Carmel, le chauffeur se précipite pour l'ouvrir la portière. Et quand la carmélite voit ça, elle dit ah, écoutez, attendez un moment, je pense que vous pourrez venir visiter le Carmel quand vous voulez. Et donc, Marcel Auclair raconte ça dans son livre, c'est ça que je voulais parler. Et donc, elle dit, j'ai parfois été sonnée chez des carmes qui vivaient en ermite. Et elle m'a dit, c'était chaque fois la porte ouverte tout de suite. Et elle conclut, les vrais spirituels sont toujours de plein pied avec l'événement. Et cette phrase-là, elle est tout à fait, je crois, significative pour l'année liturgique. Le vrai spirituel, il est de plein pied avec l'événement. Et dans une paroisse, pour faire un petit excursus, il est extrêmement précieux d'avoir des hommes et des femmes qui, au fond, sont profondément réjouis de recevoir, hein, de la part de Dieu et de l'Église, ce moment liturgique qui est offert maintenant. Donc, le temps liturgique est un temps visité par Dieu aujourd'hui, odié, hein, et c'est bien la signification profonde de l'importance du concept d'économie, economia, en théologie. Donc, l'action liturgique humaine referme en elle cet aujourd'hui de l'action salvifique divine. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste tant sur l'aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a, je ne vous apprends rien en disant aujourd'hui, odie, donc c'est un terme qui va scander toute la liturgie latine. Pourquoi tant insister sur aujourd'hui? C'est pas parce que, si vous voulez, il y aurait d'une manière ou d'une autre cette machine à remonter le temps ou un mécanisme de mémoriel ou de souvenir. Et effectivement, quand je regarde une photo de quelqu'un qui est proche, eh bien, je la regarde aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui. Pas du tout. En fait, on insiste sur l'aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que je bénéficie de la médiation du ressuscité du vivant, qui aujourd'hui est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Et donc vous allez retrouver ici, en tout cas de tous, hein, mais j'ai beaucoup insisté sur l'importance de Pâques, notamment dans la deuxième conférence et la troisième, et on retrouve ici cette place centrale de Pâques, où en réalité c'est véritablement cette actualité pascale, hein, qui est centrale dans toute liturgie, en particulier dans l'Eucharistie, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'année liturgique. Tout est centré sur Pâques. Mais, quand on parle de Pâques et de la présence pascale du Christ, ce n'est pas uniquement un souvenir de la victoire qu'il a obtenue face à la mort. Pâques est inséparable de ce que cette victoire sur la mort anticipe, ce qu'elle annonce. Et donc, en réalité, la liturgie ne se contente pas du présent odié ni de l'avenir, mais la liturgie est sans cesse ouverte sur un avenir, ce qu'on va appeler en termes un peu compliqués l'eschatologie. Et donc, le lieu eschatologique pour les chrétiens, le lieu où nous pouvons le plus vivre l'eschatologie, c'est bien l'Eucharistie et, en général, l'année liturgique. Car en fait, tout au long de l'année liturgique, on célèbre ce qui n'est pas encore, ce qui est toujours en avance par rapport à l'événement. On ne se contente pas de célébrer la vie, et encore moins le vécu. C'est un grand piège en liturgie, particulièrement, je crois, avec les jeunes. C'est comme c'est difficile, comme c'est une véritable difficulté. Ce matin, j'avais encore 32 loustiques tout au long de la journée à animer. Donc, c'est pas facile, entre guillemets, de les accrocher. Donc, la difficulté, c'est de croire qu'il est important de partir de la vie, pourquoi pas, mais il ne faut pas s'y limiter, s'y résoudre. La liturgie ne se contente pas de célébrer la vie, encore moins le vécu. La liturgie, en fait, anticipe constamment sur ce que la vie ne donne pas encore à voir ni à goûter. Mais en fait, c'est déjà là, dira saint Paul, sous forme d'art, d'acompte, de promesse, d'avant-goût. Et donc ici, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur l'anamnèse, qui est très précisément le mouvement même qui caractérise l'année liturgique. On se souvient de ce que Jésus a vécu en disant qu'il est là et qu'il viendra. La traduction, ceux qui connaissent bien Jean Rademachers, en tout cas il y a 20 ans, il était fâché chaque fois qu'on disait qu'il reviendra. Donc alors il élevait la voix, il disait, mais non, il viendra. Parce que donc il viendra dans la gloire où tous le reconnaîtront comme tel, au moment où Dieu sera tout en tous. Alors, je parle, donc j'arrive seulement qu'au point 2. Alors, le sens de l'année liturgique. Alors, une remarque qui est vraiment précieuse, à me dire ça va de soi, mais c'est précieux de nous rappeler ça, c'est que l'année liturgique, ce n'est pas une idée, mais c'est une personne. C'est la personne du Christ et de son œuvre du salut qui est actualisée dans le temps présent et comme telle ouvert sur l'avenir. Alors, au cours des siècles, en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, au départ, le mystère du Christ était comme concentré lors des célébrations dans le rappel de sa mort et de sa résurrection. Et puis, progressivement, le mystère du Christ va être réparti en plusieurs mystères qui explicitent le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Alors, quelques très rapides mots d'histoire quand même, c'est que tout au long du premier siècle du christianisme, Pâques a été le centre vital, unique, de la prédication et de la célébration de la vie chrétienne. Donc, pendant le premier siècle, il n'y avait pas de fête de Pâques. Parce que chaque dimanche était Pâques. Et donc, pour eux, c'était le huitième jour, donc c'était le jour qui venait après le septième. C'est à la fois le premier jour de la semaine et le dernier. Et le culte de l'Église est né de Pâques pour célébrer Pâques. Et donc, dans le début de la liturgie chrétienne, le dimanche était la fête unique. Et il n'y avait pas d'autre dénomination que celle de jour du Seigneur. Alors, c'est au deuxième siècle que va apparaître chaque année un grand dimanche comme célébration annuelle de Pâques et qui va s'élargir à une préparation immédiate, la semaine sainte, à une préparation médiate, plus lointaine, le carême. Et puis, en même temps que cette préparation, il va y avoir un prolongement qui est la cinquantaine, donc l'ascension et la Pentecôte. Le cycle de Noël, donc c'est-à-dire la Nativité et l'Épiphanie, précédé par l'Avent, ce cycle naît au IVe siècle. Et les avis divergent du point de vue historique pour connaître les causes de l'origine de ce cycle de Noël. Et certains pensent, en tout cas j'en suis, que ça n'a pas été fait d'abord et avant tout pour exalter l'incarnation du Christ. Pourquoi? Parce qu'on était fasciné par sa résurrection, qui impliquait sa mort et qui impliquait son incarnation. Mais l'important, c'était qu'il était non pas le premier-né de Marie, hein, mais qu'il était le premier-né des morts. C'était ça qui était considéré comme tout à fait essentiel et libératoire. Et donc, certains pensent que on a fait ce cycle de Noël pour éloigner les fidèles des fêtes païennes et idolatriques du fameux Sol Invictus, hein, le soleil invaincu. Et cette fête avait lieu au solstice d'hiver, donc à savoir le 25 décembre. Alors, en fait, on a cherché, une fois qu'on a instauré la fête de Noël, à élaborer à proposer un parallélisme avec le cycle pascal, et donc on a fait précéder la fête de Noël d'un temps de préparation, 4 semaines de l'Avent, comme vous savez. Alors on peut se demander, mais pourquoi est-ce que les chrétiens de la première génération n'ont pas élaboré un calendrier annuel? C'est d'autant plus étonnant que les Juifs avaient leur calendrier qui leur rappelait tout au long de l'année les grandes interventions de Dieu dans leur histoire. Et j'emprunte ici cette réflexion à ce beau livre de Don Rouillard, Les fêtes chrétiennes en Occident. Don Rouillard explique que pour comprendre le fait qu'on n'a pas instauré au début un cycle liturgique avec des fêtes célébrées chaque année, tient à ceci, d'après lui, et je pense que c'est une très bonne piste de réflexion, c'est que pour les premiers chrétiens, la venue du Christ, hein, à Pâques a inauguré un temps nouveau qui annonce la fin des temps. Et Jésus lui-même, dès le début de sa prédication, hein, d'après saint Marc, au chapitre 1, verset 15, hein, annonçait: les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche. Et comme vous le savez, saint Paul, et beaucoup de chrétiens avec lui, en ont conclu que la fin du monde est pour bientôt et que le retour du Christ est imminent. Et donc, dans ces conditions, ce n'est pas la peine de construire un programme répétitif, hein, puisqu'il va venir. Et vous savez que c'est à cause de cette attente un peu surchauffée que Paul, à un moment donné, va devoir calmer les esprits en disant: mais attendez, ne vous inquiétez pas, il viendra. Et donc, il va falloir 2 ou 3 générations pour que cette conviction de l'imminence du retour du Seigneur en gloire s'estompe, que les chrétiens s'installent dans la durée et qu'ils finissent par souligner donc la place de Pâques en consacrant un dimanche particulier pour cela. Alors, j'aime bien cette explication parce que ça nous rappelle une fois de plus l'importance de l'attente du Seigneur dans la spiritualité courante des premiers chrétiens. Cette dimension eschatologique, ou si vous préférez, pour employer un terme plus abstrait et actuel, cette dimension d'espérance du christianisme, qui est constitutif de notre religion, et que, encore une fois, Benoît XVI a remarquablement mis en valeur dans sa dernière encyclique, hein, l'espérance, je crois que nous n'avons pas idée, hein, de la force de l'espérance des premières communautés chrétiennes. Et c'est une des grandes priorités, je crois, au niveau de notre pastorale. Dans les notes, vous trouverez la même idée, donc l'importance de Pâques, hein, comme noyau de l'année, telle que décrite par Jean Corbon, donc dans ce beau livre Liturgie de Source. Alors, permettez-moi de dépasser un tout petit peu, ce n'est pas encore arrivé jusqu'ici, à propos d'année liturgique en paroisse, quelques pistes. La première chose, c'est que il ne faut pas tirer trop vite sur le folklore, entre guillemets, qui entoure les grandes fêtes liturgiques chrétiennes. Parce que de Noël à la Toussaint, les fêtes chrétiennes, en fait, ont donné naissance à toute une série de rites, de coutumes, de traditions, même gastronomiques. Par exemple, la galette des rois, hein. Par exemple, les crêpes à la chandeleur. Donc il y a toute une série de coutumes. Vous allez dire, on voit que le curé, il aime bien être à table, ce qui est vrai du reste, hein. Et donc, en fait, c'est assez intéressant de voir, hein, que tout ce folklore, si vous voulez, cette tradition culturelle liée aux fêtes chrétiennes, hein, sont, je crois, des pierres d'attente à ne pas négliger en pastorale. Parce que remettre les chrétiens en paroisse devant l'importance de l'année liturgique, à mon sens, c'est une grande, grande priorité. D'abord, on l'a évoqué du point de vue spirituel, parce que ça permet de désubjectiver la foi, qui n'est pas uniquement une question d'émotion, de sentiment, je sens ou je ne sens pas. Et un des grands services qu'on peut rendre à quelqu'un qui veut grandir dans la vie spirituelle, comme vous savez, c'est de l'aider à se déprendre de ce qu'il sent sur le moment. C'est du reste pareil dans toute relation, je crois, dans toute relation d'amitié ou même d'amour, je crois que ça doit être pareil. Hein, ne pas uniquement se scotcher sur ce qu'on sent. Et donc c'est pareil pour la relation à Dieu et la relation à l'Église. Et alors, quand on retrouve un certain folklore autour de fêtes, nos contemporains sont beaucoup sont très à l'affût de retrouver aussi des racines identitaires. Et le folklore ou la culture participe à cela. Alors, très concrètement, dans la paroisse où j'ai été, où je suis curé, j'insiste beaucoup auprès des jeunes familles pour qu'on réintroduise la couronne de l'Avent. Dans beaucoup de familles, ça a tout à fait disparu. Pareil pour la crèche à Noël. Donc des choses qui peuvent vous paraître peut-être évidentes, mais par exemple, comme grands-parents, si vous voulez faire un petit geste au début de la liturgie, d'abord vous souhaitez une bonne année, donc ils sont tout à fait surpris d'entendre ça au 30 novembre, et éventuellement vous apportez une couronne d'Avent en expliquant que c'est le principe du cercle dans un carré ou d'un carré autour du cercle. C'est ça fondamentalement la couronne de l'Avent. C'est pas uniquement les quatre bougies qu'on allume progressivement pour habituer nos yeux à la lumière, mais c'est fondamentalement le carré qui représente le nord, le sud, l'est, l'ouest, donc le carré qui représente les points cardinaux et donc la dimension humaine des choses, et le cercle qui est dans toute la culture un symbole d'infini, et donc c'est l'infini qui vient dans le fini, ou le fini qui se laisse rejoindre par l'infini. La couronne d'Avent, fondamentalement, c'est cela. Et donc, comment peut-on, à travers ces gestes culturellement bien situés, refaire découvrir des éléments qui sont des éléments très nourrissants pour la foi. J'ai déjà essayé avec des centaines d'enfants dans des écoles. Donc, au début, la paroisse offrait une couronne d'Avent à chaque classe. Ils se battent pour allumer la bougie quand la semaine commence. Et donc, c'est une bonne occasion qu'il faut saisir, je crois. Un autre aspect, vous avez dit, c'est évident, ce sont les couleurs liturgiques. Il y a combien d'enfants qui sont enfants de cœur et qui me disent « Pourquoi est-ce que tu es en vert aujourd'hui ?» Et pourquoi est-ce que c'est blanc? Et maintenant, je mets quoi? Donc, les couleurs liturgiques, on en ignore beaucoup, beaucoup la signification. Et comment peut-on, en paroisse, les mettre en valeur, ces couleurs liturgiques, autrement que par l'étole du prêtre, puisque dans beaucoup de paroisses, enfin, pas partout, bien sûr, il n'y a même plus de chasuble, donc c'est une étole, bon, c'est très bien, donc c'est tout à fait autorisé. Mais quand il n'y a plus que cette couleur-là, pour dire qu'on est en carême, qu'on est au temps pascal, qu'on est le temps de l'année, c'est pauvre. Je dirais encore ceci, c'est que en paroisse, l'année liturgique, il faut la saisir pour développer différents aspects du mystère du Christ et en particulier l'accès à la parole de Dieu. On ne lit pas les mêmes auteurs bibliques à l'Avent, au carême, pendant le temps pascal ou pour se préparer à la Pentecôte. Et donc c'est une excellente occasion d'approfondir une culture biblique pour qu'on puisse être davantage en consonance avec le temps. Si j'avais eu du temps, j'aurais encore voulu vous parler de Marie, qui fait partie de l'année liturgique et qui en réalité est le plus possible rattachée au Seigneur. Et donc, par exemple, le 1er janvier, c'est la mère du Seigneur et la mère de l'Église. Et donc, en fait, les fêtes mariales, tant que possible, sont rattachées au Seigneur. Et il y a des moments extrêmement propices. Certes, culturellement, il y a le mois de mai, où vous touchez une génération, en fait, de moins en moins jeune en mai. Mais par contre, un moment béni pour toucher de plus jeunes mamans, c'est l'Avent, qui est un temps marial superbe. Et aussi, ça peut peut-être vous surprendre, la Semaine Sainte. Regardez la souffrance en enfant avec le regard de Marie, et pour vous dire que je n'invente rien, regardez le nombre de cantiques, les Stabat Mater, qui ont été proposés dans notre culture musicale, dans notre patrimoine culturel chrétien occidental. Et donc, le Vendredi Saint particulièrement, Marie a sa place, Et beaucoup de mamans le saisissent d'emblée. Bien sûr, la Pentecôte. Voilà, on va faire le break ici avec mes excuses pour le retard.